Chers amis étudiants, enseignants et membres du personnel du Centre Sèvres, bienvenue à vous. Bienvenue également à Monsieur l'ambassadeur du Mexique, qui nous fait l'honneur de sa présence avec son épouse. Merci beaucoup. Bienvenue aussi pour notre ancien président, qui est maintenant provincial de la nouvelle province, François Boédek. Avec donc un salut tout spécial et fraternel pour toi, François. Nous voici donc réunis pour ouvrir solennellement cette nouvelle année académique. J'imagine ce que vous avez pu penser au moment de partir de chez vous pour vous rendre ici. Je suppose que ceux qui ont été les plus matinaux et sans doute les moins tranquilles, ce sont les étudiants qui démarrent. Quel que soit le cycle auquel ils sont inscrits, croire et comprendre, annoncer et transmettre, le CFTP, la FFR, tout ça c'est des sigles que vous apprendrez petit à petit à reconnaître, hein. Les étudiants du Studium théologique intermonastère ou l'un des trois cycles de philosophie et de théologie. Peut-être d'ailleurs ceux-là n'ont-ils pas très bien dormi cette nuit. Ou bien ont-ils fait des rêves un peu anxieux avec, je ne sais pas moi, d'immenses salles de classe dont on ne voit pas le bout, ou bien des examens dont on n'arrive pas du tout à répondre à la question posée. Voilà. Sans doute y a-t-il encore pas mal d'inquiétudes dans leur tête. Est-ce que je vais arriver à comprendre les cours, tout spécialement pour ceux pour qui la langue française est encore un combat? Est-ce que je vais réussir à entrer dans les raisonnements philosophiques, théologiques, dans le travail de la Bible? Est-ce que je ne vais pas trouver cela profondément ennuyeux? Ça peut être aussi une question, hein. Ou bien aussi, est-ce que je vais enfin pouvoir trouver de l'aide pour répondre aux questions embarrassantes sur la foi? Du côté de ceux qui sont déjà habitués au Centre Sèvres, j'imagine qu'ils sont arrivés en hâte, en se demandant... Au fait, c'est quoi déjà le sujet de la conférence de ce matin? Et peut-être, d'ailleurs, se sont-ils dit, comment je vais faire cette année pour m'organiser pour que ce ne soit pas la course du début à la fin? Et certainement, tous se sont demandé, quel gros bouquin je vais choisir de travailler à fond cette année? Et même, je les vois déjà, dès la première pause de la journée, se précipiter à la bibliothèque pour aller chercher ce livre. Parmi ceux qui sont en fin de cycle, je ne sais pas trop ce qui peut tourner dans leur tête. Peut-être se disent-ils, c'est bon, après toutes ces années au Centre Sèvres, ça commence à s'éclaircir, je pense avoir fait en gros le tour de la question. Ou au contraire, mon Dieu, plus j'avance, plus je me rends compte que l'étendue et la complexité des questions sont bien plus grandes que ce que j'imaginais. Est-ce que je vais arriver à dire quelque chose qui tienne au milieu de tout cela ? Du côté des enseignants, j'imagine que certains se sont dit « Encore une nouvelle année qui commence. Quelle tête nouvelle je vais découvrir ?» Ou bien « Ouh là là, c'est vrai, mon séminaire démarre dans 3 semaines. Il faudrait peut-être que je m'y plonge vraiment. » Ou encore « Comment je dois remodeler mon cours pour le rendre encore plus pertinent ?» Du côté des membres du personnel du Centre Sèvres, j'imagine que presque tous ce matin se sont dit « Ouh là là, c'est la grosse journée, espérons qu'il n'y aura pas de bug avec Orion, qu'on ne va pas découvrir de gros problèmes avec les papiers des étudiants, espérons qu'il y aura à manger pour tout le monde ce midi, que le nouveau site internet du Centre Sèvres va se mettre à marcher sans plus tarder. » En tout cas, je pense que ce sont eux qui aujourd'hui affrontent les questions les plus aiguës. Et j'en profite pour leur dire un très très grand merci pour leur engagement dans leur travail. Et au milieu de tout ça, ceux qui sont les plus sereins, parfaitement zen, ce sont les directeurs de cycle et les doyens, ainsi que le président et le secrétaire général du Centre Sèvres. Parce que eux, bah, ils sont toujours au-dessus de la mêlée et ils ne sont jamais touchés par l'angoisse de la rentrée. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est la reprise. Et s'il y a une chose sûre, Une chose de sûre, à travers tout ce que je viens de décrire, c'est qu'il se dessine ici pour nous tous un rendez-vous. Quelque chose qui doit se passer au cours de cette année académique. C'est à la fois un tissu de relations qui va se construire, beaucoup d'échanges, des questions retournées en tous les sens, des conversations passionnantes, mais à travers cela, des choses qui s'éclairent, des chemins qui s'ouvrent, des choses qui bougent au fond de nous-mêmes. Et au milieu de tout cela, de manière discrète, c'est aussi l'Esprit qui fait son œuvre. C'est notre Dieu qui nous donne rendez-vous en ce lieu, en ces couloirs et salles du Centre Sèvres, quand vous transpirez devant votre ordinateur ou bien sur un gros livre de philo. Ce rendez-vous, c'est le même rendez-vous majeur pour nous. Ce rendez-vous, c'est même le rendez-vous majeur pour nous. Et c'est celui qui peut donner la note pour tous les autres rendez-vous que nous avons pour cette année. Une des manières de signifier ce rendez-vous, ça sera de célébrer l'Eucharistie ensemble tout à l'heure, de même qu'à d'autres moments de l'année. Je pense notamment aux messes du jeudi qui sont animées par le Centre Sèvres, et je vous signale que la prochaine est prévue pour le 19 octobre. Et toutes les autres, vous les avez déjà mis dans vos tablettes. Hein. Voilà, vous pouvez les trouver sur le programme. C'est que Dieu nous attend aussi en ce lieu de notre intelligence. Quand il nous touche et nous travaille, ce n'est pas seulement dans nos affects, dans notre cœur, c'est dans notre être tout entier. Et si la tête reste en dehors du jeu, eh bien nous risquons de nous transformer en croyants hyperactifs et réactifs, mais ni enracinés, ni larges dans leur accueil, ni créatifs. Car l'intelligence est liée à la mémoire, et c'est elle qui nous permet de nous enraciner. Elle est liée à l'écoute et à la capacité de parler, de communiquer, et c'est tout cela qui nous permet d'accueillir. Et elle est liée également à l'imagination, je pense que ceux du premier cycle auront l'occasion de revoir ça dans les semaines qui viennent, là. Et ça nous aide à être créatifs et pleins d'audace. C'est également pour cela que ce qui se passera en cette année pour chacun de nous, étudiants, enseignants et membres du personnel, c'est bien plus qu'une somme d'histoires individuelles. À travers ce que nous essayons de faire dans les murs de cette maison, il y va aussi, et même d'abord, d'un service de l'Église, à travers le service de l'intelligence de la foi et du monde. Nous souhaitons tous, je crois, que l'Église soit enracinée, accueillante, imaginative, pour qu'elle fasse entendre la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont soif et qui ne trouvent pas à se désaltérer vraiment. Eh bien, c'est exactement l'enjeu de notre engagement ici, dans les études. J'en profite pour vous dire que toutes les initiatives pour faire du Centre Sèvres un lieu animé, avec des occasions de faire des choses ensemble, eh bien, je les encouragerai très volontiers. Je sais qu'il y a déjà un ciné-club qui est prévu, de même qu'une équipe de foot, si mes renseignements sont bons. Si certains ont envie de lancer un chœur, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps, qui pour l'instant ne s'est pas réalisé, mais si le chœur vous en dit, eh bien n'hésitez pas. Et on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses. On avait fait l'année dernière un café théologique, par exemple, à une occasion, l'occasion des forums, hein, ou un café philosophique, on pourrait imaginer aussi, ou d'autres choses. Si des choses comme ça vous viennent, eh bien n'hésitez pas d'abord à en parler à quelques autres, et puis à venir me voir pour voir quelle mise en œuvre serait possible. Voilà. Et cette année, c'est M. Alfonso Alfaro Barreto qui ouvre le bal. Merci beaucoup à vous de vous être rendu disponible pour cette conférence de rentrée. Depuis quelques jours que vous êtes dans la communauté jésuite de la rue de Sèvres, j'observe qu'à la table où vous êtes assis pour le repas, les conversations se prolongent bien après la fin du repas. C'est que vous êtes tout simplement passionnant. Et en plus, vous vous intéressez aux personnes et vous savez les faire parler. Alors c'est vraiment une joie et un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Alfonso Alfaro, vous êtes historien et ethnologue, grand connaisseur de la culture mexicaine. Vous travaillez dans la maison d'édition Artes de México, avec la responsabilité du secteur de la recherche. Vous avez des liens forts avec la France et également avec la Compagnie de Jésus. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la culture mexicaine et vous avez dirigé nombre de colloques, organisé des expositions, etc., etc. Ce matin, vous allez nous parler de la question délicate du rapport entre identité et métissage. C'est une question à laquelle nous sommes confrontés en Europe. Il arrive qu'on se sente envahi par des populations venues d'autres horizons, et cela ne va pas sans inquiétude ou angoisse. Et face à ce genre de questions, on ne peut pas s'en tirer simplement en invoquant la générosité évangélique, même si elle est capitale. Je pense que votre intervention va nous aider à comprendre comment ça marche, précisément ce travail dans lequel les identités sont élargies, déplacées, recomposées, du fait du contact avec d'autres populations. Et qu'est-ce que cela produit? Quelle fécondité cela peut avoir? Et c'est à partir de là qu'on peut trouver de quoi orienter l'action publique pour que la coexistence joue comme une chance. Sur la question du métissage, le Mexique est un très bel exemple, même si c'est une histoire entachée aussi de grandes violences. Mais je crois que vous n'allez pas vous contenter d'une approche mexico-mexicaine, si on peut dire, et que votre angle de vue sera plus large, en nous plaçant à une échelle qui permet de repérer les grands mouvements de fond qui traversent et qui travaillent l'histoire. Voilà. Eh bien, Alfonso Alfaro Pareto, nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Centre Sèvres, à la communauté du Centre Sèvres, à la province de France pour l'accueil si généreux et si gentil qui m'a été dispensé ici. Ce sont été des journées vraiment très stimulantes d'un point de vue intellectuel et très chaleureuses d'amitié et d'affection. Quand j'ai été invité à réfléchir avec vous sur ce sujet si vaste de l'identité et du métissage, je pensais qu'il fallait jeter sur ce sujet un regard qui soit en accord avec la tradition de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire un regard planétaire. La Compagnie de Jésus, en partant déjà de cette expérience de Saint Ignace qui nous parle de cette vision trinitaire, cette vision trinitaire qui englobe le monde d'en haut, et s'est développé d'une façon qui nous a permis de regarder le monde en nourrissant chacune des expériences de recherche et des expériences apostoliques par l'apport d'autres expériences apostoliques ou intellectuelles ailleurs. Cette capacité qu'a eu, par exemple, le père Kircher à Rome de produire, de publier une encyclopédie de l'histoire de l'Égypte ou une grande somme sur l'histoire de la Chine, la première grande encyclopédie sur les savoirs de la Chine, ou bien ce qu'ils ont pu faire les jésuites français à la fin du XVIIIe, ces histoires édifiantes et curieuses qui ont été la première grande encyclopédie des cultures du monde. En fait, c'est le résultat de cette vision planétaire que les jésuites ont introduit dans la culture occidentale pour la première fois. Une vraie vision des quatre parties du monde, une vraie vision planétaire. Donc j'ai voulu entamer cette réflexion autour de ce sujet essayer de voir de quelle façon ces questions de l'identité et du métissage peuvent être éventuellement abordées à partir de la France, mais en partant aussi d'un regard éloigné, un regard périphérique, qui est celui de mon pays. Disons que les problèmes qui touchent à ces questions de l'identité et du métissage sont en ce moment pour les catholiques et pour l'Église de deux natures. D'une part, ce qui confronte les chrétiens et l'Église à la civilisation où elle est, qui est la nôtre, c'est-à-dire notre rapport à notre civilisation, notre rapport au monde. C'est une civilisation qui n'est plus tout à fait chrétienne comme autrefois elle l'était. Quand elle s'appelait la chrétienté, elle ne s'appelle maintenant que l'Occident. Donc il y a eu ce changement qui nous oblige à redéfinir nos rapports avec elle, d'une part. D'autre part, l'autre question poignante est celle qui nous met en rapport avec les autres cultures, les autres civilisations à l'extérieur de la nôtre. Les grands pôles d'altérité pour cet Occident sont d'une part le grand espace confucéen, les cultures du monde d'Extrême-Orient, autour de la Chine, ou bien celui de l'Inde, ou bien celui de l'Islam. Donc sur ces troisième points, je vais mettre carrément les pieds dans le plat et je vais entrer à essayer de réfléchir à ce que sont les relations de notre civilisation à cet univers externe, ce grand univers d'une autre culture, d'une autre civilisation, qui est celui de l'Islam, quand on le voit de cette lointaine périphérie, mais qui appartient néanmoins à part entière à l'Occident, qui est le Mexique. Vous savez, comme le Mexique, comme tous les pays d'Amérique latine, n'a pas d'autres références civilisatoires auxquelles elle puisse s'ancrer ou se référer, comme ce serait le cas de la Chine ou de l'Inde. Les grandes civilisations préhispaniques sont toutes maintenant éteintes, et si les cultures sont toujours vivantes, nous ne disposons plus d'une altérité civilisatoire autre que celle de l'Occident, c'est-à-dire la même que la vôtre. On est tous exactement dans les mêmes horizons civilisatoires. Donc pour cela, c'est peut-être intéressant d'aborder ce problème des relations entre l'Occident et le monde islamique à partir de cette banlieue de la culture, comme Octavio Paz aimait le dire, qui est l'expérience mexicaine. Et je vais donc essayer d'analyser cela. Je ne ferai, disons, qu'une réflexion sur les conceptuelle ou théorique sur les notions de métissage ou de identité qu'à la fin. Je préfère plonger directement sur l'étude d'un cas particulier et après on pourra éventuellement en tirer des conclusions et des analyses. Je vais donc essayer de vous parler, de faire un regard sur la culture islamique telle qu'on peut la percevoir du Mexique. Je vais parler des cinq fantasmes et une absence. Et après, j'essaierai de ramener celle-ci à notre époque et voir si est-ce que cela peut nous apporter quelques éléments de réflexion pour comprendre la réalité contemporaine de ces contacts entre le monde occidental et ses cultures, ses sociétés de civilisation islamique. Bien sûr, ce regard sera partiel, ce sont des hypothèses, et notez que j'ai jusqu'à maintenant parlé des sociétés des traditions islamiques, je n'ai jamais parlé, je n'avais jamais touché aux questions spécifiquement religieuses. spécifiquement. C'est-à-dire, il est vrai qu'on ne peut pas les dissocier une chose de l'autre, mais je vais essayer de me situer sous l'angle spécifique des cultures et des civilisations. Donc, juste une repère historique importante, juste pour savoir où nous sommes situés. Juste, je voudrais rappeler une date, c'est que, vous savez, en 1492, quand Christophe Colomb est arrivé aux Antilles, c'est l'année de l'expulsion des Juifs de Grenade, mais c'est aussi l'année de la chute, de l'expulsion des Juifs de toute l'Espagne, mais c'est l'année de la chute du royaume musulman de Grenade dans les mains des rois catholiques. C'est à ce moment-là que les rois Boabdil et sa cour ont quitté Grenade, sont partis au Maghreb, mais c'est important de se rappeler que tous les autres musulmans, la plupart des autres musulmans d'Espagne, sont restés sur place. À peu près la moitié des habitants de Grenade, plus d'un tiers de des habitants des royaumes de Valence, étaient des musulmans. Et c'était pareil pour la région d'Extremadura et d'autres régions. Et c'est resté comme ça jusqu'à 1614. L'expulsion des musulmans n'a commencé qu'en 1609 et terminée en 1614. Donc, tout le siècle de la conquête, disons que Cortés étant arrivé au Mexique en 1519, tout le siècle de la conquête, l'Espagne était encore un pays biculturel, s'il n'était plus vraiment bireligieux, puisque la plupart de ces musulmans étaient censés ne plus l'être tout à fait, mais ils vivaient, ils pratiquaient encore, disons qu'ils parlaient leur langue, ils avaient conservé l'habitude de leurs vêtements, de leurs usages, de leurs relations, rapports sociaux, et même pratiquement très souvent de leurs pratiques religieuses. Donc tout ce siècle de la conquête, ont été marqués par cette empreinte extrêmement forte, surtout si l'on prend en considération que la plupart des conquistadors venaient justement de ces régions-là, qui avaient été les plus imprégnées de culture musulmane pendant près de 8 siècles à ce moment-là. Et donc, ces premiers fantasmes, c'est celui des artisans invisibles, c'est le fantasme d'un langage esthétique. Pratiquement la totalité des bâtiments religieux, des chapelles, des églises construites pendant cette période avaient des toitures comme celles que vous avez pu regardez tout à l'heure, et on verra à la fin des images pour ne pas créer des confusions avec les images, c'est-à-dire des toitures carrément typiques de l'architecture arabe. Et cette image que vous avez vue et qu'on reverra à la fin, c'est l'image actuelle de l'église de Saint-François à Tlaxcala. C'est une image tout à fait typique de l'architecture de cette période. Toute l'ébénisterie, la maçonnerie, la ferronnerie, le carrelage, les plâtres, le meuble du XVIe siècle au Mexique, beaucoup d'habitudes et coutumes, même des plats de toute cette période sont très profondément marqués par cette tradition. Disons que la façon habituelle pour les artisans espagnols de travailler était celle qu'ils avaient pratiquée habituellement pendant 8 siècles, et donc ils n'avaient aucune raison d'en changer. Mais un élément qui peut-être c'est important de souligner, c'est que l'arabesque, cet élément décoratif fondamental de l'art musulman, puisque l'arabesque c'est l'expression explicite qui permet de connecter la parole sacrée au décor, à l'expression plastique, était présente partout au XVIe siècle, partout en Amérique. Et c'est cet arabesque lui-même qui a permis, avec le temps, d'intégrer et les formes calligraphiques et les formes décoratives des traditions indigènes, par exemple dans les broderies, dans les textiles, dans les décorations des bâtiments, avec celles venues d'Europe. Et quand les jésuites, à la fin du XVIe siècle, ont apporté à ce modèle esthétique une direction, un projet de direction formelle qui venait, je le souligne en passant, du projet esthétique, du principe, du projet spirituel, du principe et fondement des exercices, les arts, disons, les formes décoratives traditionnelles indiennes et les formes décoratives traditionnelles européennes ont pu se fondre autour de ces modèles décoratifs qui étaient l'arabesque. C'est une première forme de métissage assez inattendue, en fait, que le baroque ait été possible comme point de rencontre entre la tradition indienne et la tradition européenne par les biais des éléments décoratifs venus de ce monde si lointain, qui est finalement l'arabesque, qui est une expression explicitement spirituelle, dont l'origine est explicitement spirituelle. Donc, cette première figure, cette première fantasme, celui des artisans absents, d'un art produit, disons, dont l'origine était à la Mecque, à Damas, au Caire, à Bagdad, et qui, et bien sûr à Cordoue, et qui, là-bas, était présent partout. Première fantasme. Deuxième fantasme, celui de la confrontation. Vous savez, le XVIe siècle a été pour l'Espagne, mais ce n'était pas le cas pour tous les pays d'Europe, les grands siècles de la confrontation. Les 8 siècles de vie commune avec les musulmans avaient débouché sur un moment de grande tension après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Donc les Ottomans et les couronnes des Habsbourg étaient en première ligne des conflits constants, et les souverains espagnols étaient soumis aussi aux attaques des pirates berbères, à partir notamment d'Alger, sur les côtes sud de la Méditerranée. Donc les berbères d'un côté, les ottomans de l'autre, et aussi les ottomans du côté des Balkans sur l'Autriche, qui était donc dans les mains de ces mêmes maisons d'Habsbourg, faisait que pour l'Espagne, l'islam continue d'être, comme elle était pendant ces 8 siècles, le pôle d'altérité, d'inimitié, de confrontation. Ce n'était pas toujours le cas pour tous les pays d'Europe. À ce même moment, la France avait des positions beaucoup plus souples à l'égard des Ottomans. Au rez-de-chaussée du Quai d'Orsay, dans les musées du Quai d'Orsay, on trouve par exemple une lettre de François Ier au sultan, dans laquelle, avec une grande finesse, sans accepter vraiment des positions de vassalité, François Ier reconnaît, disons, se place lui-même en protecteur des chrétiens sujets de la porte, sujet du sultan. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la confrontation, disons que dans ces projets de Lépante, dans ces projets d'attaque frontale entre, d'une part, le Saint-Siège, Gênes et l'Espagne, Venise, contre les Ottomans, la France était plutôt neutrale. Et les vrais pays de confrontation, c'était l'Espagne ou c'était les Habsbourg, disons, les territoires des Habsbourg, pas vraiment toute la chrétienté. Mais, donc, ce climat de chrétienté qui était des confrontations qui étaient vraiment très dures est arrivé, bien sûr, jusqu'au Mexique. Les Espagnols ont amené avec eux au Mexique cette peur, cette esprit de confrontation avec cet ennemi qui est, et qui avait été le leur pendant si longtemps, et qu'ils essayaient de poursuivre en Afrique du Nord dans des expéditions que le cardinal Cisneros avait lancées sur les territoires d'Afrique du Nord. La bataille de Lépante, 1571, c'est le moment crucial de ces grands conflits. Et les tensions, disons, entre les royaumes d'Habsbourg et les musulmans ont eu un écho fort au Mexique. Je vais dire, parler seulement de deux exemples rapidement. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passait chez les savants. Un grand savant, c'est Heinrich Martin, qui était le cosmographe du roi, grand mathématicien, le responsable des œuvres d'assèchement du lac sur lequel est fondée la ville de Mexico. Il écrivait à Mexico un livre publié quelques mois avant le départ du processus d'expulsion des musulmans d'Espagne, en 1609. C'est une histoire du monde dans laquelle il fait une histoire des Ottomans, une histoire du monde musulman, et s'interroge surtout sur sa chute. Quelles sont les possibilités de finalement que les chrétiens auront d'anéantir ces grands ennemis qui nous accablent. Donc c'est un livre écrit et publié à Mexico, et c'est la lecture habituelle des élites locales. C'est-à-dire cette grande obsession de l'ennemi. À l'autre bout de l'Empire, en Catalogne, à Tarragone, le cardinal Cervantes, évêque de Tarragone, s'interroge sur les mêmes années sur qu'est-ce qu'on peut faire si les Ottomans s'emparent complètement de l'Espagne. Où peut-on sauvegarder le roi Philippe? Va-t-on lui envoyer au Mexique, où il sera peut-être plus en sécurité? Donc c'est le genre de questions qu'on se pose dans les mondes hispaniques à la deuxième moitié du XVIe siècle, la première décennie du XVIIe. Donc c'est là ces grands fantasmes de la confrontation. Deuxième fantasme. Un troisième fantasme, ce serait un fantasme cosmique. Et ce fantasme, qu'est-ce qui est... On a un peu dit qu'est-ce qui se passait chez les élites, mais qu'est-ce qui se passait chez les Indiens? De quelle façon les Indiens réagissaient face à cette peur qui traversait leurs maîtres espagnols? Mais les Indiens ont adopté aussi ces mêmes fantasmes, mais ils les ont détournés. Ils ont fait un détournement spectaculaire. Vous savez, en 1539, lors de la paix de Nice entre le roi de France et le roi d'Espagne, pour célébrer cela, Fernand Cortés, à Mexico, a organisé une grande fête. Il a inondé la grande place centrale de Mexico, qui est toujours là, et il a fait faire une bataille navale dans laquelle il a voulu représenter la prise de Rhodes par les chrétiens contre les musulmans. Et dans cette fête, lui-même, Cortés, il s'est représenté en tant que l'empereur chrétien. Il a joué le rôle d'empereur chrétien, comme c'était l'habitude dans les grandes fêtes de la Renaissance, c'était que les seigneurs jouaient, c'était le grand théâtre de la Renaissance, c'est un théâtre fait pas pour les spectateurs, fait pour les acteurs. Donc les rôles de choix sont donnés aux personnes de choix. On le voit très clairement, disons, dans les théâtres de Versailles, où les pièces étaient écrites pour que Louis XIV lui-même soit le personnage principal. Donc, on représente la lutte entre les chrétiens et les musulmans pour la place d'Hérode, et les chrétiens en sont vainqueurs. Et Cortés, disons, déguisé en empereur chrétien, prend Hérode de la main des musulmans. Les Indiens ont assisté à la marge, ils n'avaient pas vraiment le droit de participer, de prendre place à dans cette célébration que dans des postes tout à fait marginaux. Et les alliés des Aztèques, tout de suite, se sont empressés d'essayer de copier. Ils étaient séduits par la grandeur et l'attrait esthétique de cette cérémonie. Et l'année d'après, les caciques, le seigneur de Tlaxcala, en a fait une représentation semblable, dans laquelle le cacique lui-même était déguisé en Cortés, déguisé en empereur chrétien, et a nommé un autre de ses seigneurs, de ses nobles, pour prendre le rôle de l'ennemi musulman. De cette façon, les Indiens ont commencé à adopter cette forme de célébration que les Espagnols faisaient, mais ça a eu un effet inattendu, parce que la conquête avait produit une très triste, terrible effet. C'est une mortalité, une baisse démographique catastrophique depuis les premières décennies de la conquête. Les épidémies, la famine, les mauvais traitements avaient accéléré, avaient produit ces phénomènes. Et à ce moment-là, les survivants, qui étaient vraiment très peu nombreux par rapport à ce grand poids démographique qu'avait eu la région du centre du Mexique, et ils ont pu, face à ce type de célébration, leur expérience tragique avait été marquée par une expression qu'on retrouve souvent dans les voix des Indiens, c'est « nos dieux ne nous ont pas protégés ». Il y a eu d'autres dieux plus puissants que le nôtre, et ce sont eux qui ont eu la victoire. Et cette puissance célestiale plus puissante était Saint-Jacques, en premier lieu, que les Espagnols mettaient toujours en avant comme leur chef de guerre contre les musulmans. En espagnol, Saint-Jacques s'appelle « Matamoros », « tueur de mort ». Et ou bien Saint-Michel, qui est le grand protecteur contre les démons. Donc Saint-Jacques et Saint-Michel ont été plus puissants que nos puissances tutélaires anciennes qui nous ont abandonnés. Donc maintenant, il y a deux nouvelles puissances tutélaires qui ont eu une marque de bienveillance envers nous. Ils ont été bienveillants avec nous, nous les survivants. Si nos cousins, nos grands-pères, nos pères sont morts, peut-être on calcule maintenant au minimum 7 de chaque dizaine de personnes sont morts dans la première décennie de cet épisode terrible. Donc nous, ces 3-4 survivants, nous avons été l'objet de la bienveillance de ces puissances célestiales. Et donc, nous leur devons une gratitude, un attachement. Et c'est ce qui a entraîné, de la part de ces Indiens, peu à peu, l'adoption de ce modèle de lutte cosmique, de lutte sur les cieux, entre des puissances célestiales, entre les dieux, de leur ancienne époque, qui, de ce fait, se sont vus identifiés avec les puissances tutélaires de l'islam. Ces puissances célestiales qui nous protégeaient sont donc celles qu'on voit à l'œuvre maintenant sur les pièces de théâtre, qui sont ceux qui protègent les musulmans. Donc, le musulman est comme ça devenu un ennemi fantasmatique, imaginaire, c'est le dieu de notre passé, et disons qu'ils ont eu de ce monde islamique une vision en même temps pleine de respect et pleine de respect, puisque dans toutes ces batailles, une chose très importante, les musulmans étaient toujours des hommes de grandeur d'esprit, des vrais chevaliers, donc c'était des figures de respect mais faibles. C'est que les vraies puissances fortes sont les nôtres. Et donc, les nôtres sont... ceci s'est vu étoffer un peu plus longtemps, un peu après, grâce à la figure maternelle de la Vierge, qui n'avait pas seulement des figures protectrices, fortes, militairement capables de nous défendre, mais une figure vraiment chaleureuse, tendre, maternelle, qui est celle de la Vierge, particulièrement dans son advocation de Guadeloupe. Et donc, ce fantasme de la lutte de mort a permis aux chrétiens, disons aux Indiens, de s'intégrer, de s'incorporer, de commencer à faire partie de ce monde nouveau dans lequel qui leur était proposé. Une troisième figure qui a pu être adoptée à cette occasion, c'était celle du roi. Parce que quel est le récit que les Indiens ont adopté parmi tous les récits possibles pour expliquer cette lutte dans les cieux entre les chrétiens et les musulmans? Ben, ils auraient pu prendre cette bataille d'Hérode que Cortés leur montrait, ils auraient pu prendre la quantité d'autres histoires que les Espagnols mettaient en scène et qu'ils continuent de mettre en scène dans leurs fêtes populaires, mais non, ils sont allés plus loin. Ils sont allés chercher la clé de la clé de voûte, disons, de la construction du fantasme, de la confrontation entre l'Occident et l'Islam, qui est la chanson de Roland. Les Indiens se sont emparés de la chanson de Roland, on ne sait pas très bien de quelle façon, par quel biais, elle circulait, sans doute, mais le fait que parmi tous les discours disponibles pour raconter l'histoire des confrontations avec les Indiens qu'il avait à leur disposition, c'était celle-là, précisément, la chanson de Roland, qui marque pour l'Occident tout entier, d'une part, disons, la naissance de la grande épique littéraire française, mais aussi la conscience occidentale du fait de la reconnaissance que l'islam n'est plus juste des bandes avec d'adversaires avec lesquels on peut se battre, mais une vraie civilisation qui est en face de la nôtre, avec laquelle on peut avoir un vrai pôle d'altérité radicale. Donc c'est la chanson de Roland dont les Indiens se sont emparés, et ils ont fait des représentations, et ils continuent de le faire. Peut-être je serai maintenant, si on peut voir des images à partir de la numéro 2, et de façon à ce qu'il y ait que l'image centrale, si c'est possible. Et voilà, il y a un instant, s'il vous plaît, c'était juste cette image dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le plafond artesonado de l'église Saint-François, aujourd'hui, à Tlaxcala, qui vous pourriez parfaitement confondre avec n'importe quelle toiture en bois en Espagne ou en Afrique du Nord ou ailleurs. On passe à la suivante. On va passer un peu rapidement sur les... Encore. Voilà. Celle-ci, c'est une fête qui est célébrée. Ce sont des photos qui ont été prises très récemment. C'est une fête qui a lieu tous les ans à Zacatecas, où il y a à peu près 10 000 acteurs qui continuent de représenter la chanson de Roland, qu'ils apprennent par cœur, sans qu'ils reçoivent aucune aide, aucun appui, aucun stimule, aucun encouragement de la part de qui que ce soit, ni de l'Église, ni de l'État, ni d'aucune institution. C'est vraiment, ils ont trouvé, depuis plus de 4 siècles, que la chanson de Roland, c'est le véhicule qui leur permet d'exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur. Ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est-à-dire... qui est notre protecteur, qui est maintenant notre... dans quelle famille nouvelle sommes-nous entrés? Là, c'est une confrérie dirigée par tous les enseignants, soit par un maçon, soit par un boucher, soit par un chauffeur de taxi de la ville. Et ce sont, disons qu'ils célèbrent... C'est une fête qui est comme à l'époque de la Renaissance. C'est une fête qui n'est pas faite pour les spectateurs. il n'y a qu'un seul spectateur qui a le droit d'être considéré spectateur de la fête, qui peut passer. Voilà. C'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui est le protecteur de la famille, le nouveau père qui a accueilli ses enfants dans les girons de cette nouvelle famille de catholicisme. Donc la cérémonie est faite pour, en faisant des figures sur le terrain pour qu'il puisse être regardé du ciel, du haut du ciel où Saint Jean-Baptiste se trouve. Donc on fait des figures, on dessine des figures sur les grands terrains vagues où ça se passe, pour qu'il puisse être regardé du ciel. Donc il y a là des musulmans et des chrétiens, voilà, ce sont les musulmans, que c'était pas facile pour convaincre les gens de participer dans les côtés des vaincus. Donc ils leur ont proposé quelque chose pour les séduire, d'utiliser les uniformes de l'armée française, des zouaves français. Donc ce sont les uniformes des zouaves qui sont les plus attirants, les plus chatoyants, les plus beaux. Et donc, tandis que les chrétiens, comme vous allez voir, ont des uniformes aussi français, des sapeurs français, mais qui sont beaucoup moins voyants, beaucoup moins séduisants. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant beaucoup plus de musulmans que des chrétiens dans ces batailles. La bataille dure 3 jours et 4 nuits. Continuelle, et les gens par cœur répètent cette histoire mêlée à d'autres histoires, à deux autres histoires. Une autre, c'est l'histoire de la décollation de Saint Jean-Baptiste, justement, et une autre, une histoire qui a lieu à la Méditerranée à l'époque de la bataille des Lépantes. Donc, il faut faire figurer dans cette histoire Philippe II et Don Juan d'Autriche, qui étaient aussi des grandes figures de l'épique espagnole. Donc, tout ça se mêle dans une. Pas d'une façon chaotique. Quand on voit de l'extérieur, oui, ça semble un peu bizarre, mais ce sont des histoires que les gens reconnaissent très bien, qui sont entremêlées, mais distinctes et séparées. On peut passer encore une autre pour voir. Voilà, ce sont les processions après les batailles, ils se promènent un peu dans la rue. Encore une autre. Voilà, c'est. Oui, le jeune. Et celle-ci, c'est.
Oui, c'est le sultan.
C'est le sultan qui va être vaincu. Le premier jour, c'est les chrétiens qui vainquent. Le deuxième jour, c'est les musulmans. Et le troisième jour, ce sont finalement à nouveau les chrétiens qui prennent le dessous. Et on passe à la suivante, finalement, je crois. Voilà. Oui, c'est un peu terrible. Ce sont des batailles. C'est une célébration assez tranquille, finalement. L'armée est là, qui veille à ce que l'armée nationale est là, à ce que ils ont l'autorisation pour l'usage de la poudre, et donc il y a peu d'accidents. Et puisque c'est une confrérie religieuse, l'usage de l'alcool est interdit pendant toutes ces journées, ce qui fait que, par comparaison à d'autres fêtes de cette même nature qui ont lieu au même pays, celle-ci se passe d'une façon plutôt bon enfant. Voilà, c'est la tête du cher Saint Jean, comme vous savez, se trouve maintenant à la mosquée de Damas, où le pape Jean-Paul II est allé se recueillir. Pardon. Voilà, on arrête là. Et bon, voilà, je voulais rapidement vous montrer. Donc, ce troisième fantasme des confrontations. Des confrontations cosmiques a eu des effets inattendus. D'une part, l'adoption de ces deux modèles français, d'une part, de grands récits de la chanson de Roland, d'autre part, de ces uniformes français, c'est-à-dire qu'il a, pour construire cette référence identitaire, pour faire entrer les Indiens dans la catholicité, il a fallu aller chercher. Nous allons un exemple spécifique des métissages, aller chercher assez loin, et surtout, personne n'y est vraiment responsable. C'est un phénomène que personne n'a pu prévoir, personne n'a calculé, c'est le dynamisme propre à la société qui est allé chercher là-bas. Ça, c'est un des éléments principaux du fonctionnement du modèle du métissage. Je parlais tout à l'heure de l'image du roi. Disons que ça a permis d'adopter et le roi, et la Vierge, et les saints, mais aussi le roi. Pourquoi le roi ? Et parce que, donc, c'est Charles, dans la chanson de Roland, c'est Charlemagne, le grand personnage, le grand vainqueur des musulmans, la grande figure protectrice, la grande figure héroïque. Et cette image, ce récit a permis aux Indiens de prendre Charles Quint, leur roi de l'époque, comme Charlemagne, substituer l'image de Charlemagne à Charles Quint. Pourquoi? Quelle a été la base? Quelles ont été les conditions de possibilité? C'est que, vous avez, la première fête, c'est 1539. En 1540, la couronne d'Espagne, Charles Quint, a promulgué la loi de la protection de la terre indienne. C'est à partir de ce moment-là que les Indiens n'ont plus du tout pu être dépossédés de leurs terres par garantie royale. Et la garantie royale de la possession des terres, qui a duré jusqu'à 1857, en fait, même après l'indépendance, ça a permis aux Indiens de commencer à considérer les inclusions, pas seulement dans la catholicité, mais aussi dans l'Empire, dans les royaumes, sous une figure protectrice, celle de l'État, du monarque protecteur, qui, à partir de ce moment-là, la grande chute vertigineuse démographique s'est arrêtée. Les Indiens, commençant à avoir de nouveau des terres à eux, propres à cultiver, c'est à ce moment-là que l'essor économique de la vice-royauté a démarré. Les gens, la productivité étant assurée et la nourriture étant assurée aussi. Donc, nous avons vu le troisième fantasme. Plus rapidement, le quatrième fantasme, c'est qu'à un moment donné, au XVIIIe siècle, il y a eu la fin de la confrontation. Au XVIIIe siècle déjà, les chrétiens ne voyaient plus les musulmans comme une menace. Ça a commencé déjà, paradoxalement, dès le XVIe, quand Cervantes, par exemple, qui lui-même avait été prisonnier des musulmans en Alger, et dans l'œuvre de Cervantes, c'est souvent, les personnages musulmans sont des personnages assez sympathiques. Et vous vous souvenez peut-être que Cervantes lui-même, elle a dit que l'auteur, le vrai auteur de Quichotte, c'est un musulman, Sidi Hamet Benengeli, et que lui n'est que le transcripteur d'un texte qu'il a trouvé. C'est un dispositif littéraire, comme tout le monde sait. Mais, c'est-à-dire ça pour montrer comment cette morophilie a commencé dès le départ, était déjà présente, même dans l'Empire espagnol, au pire moment de la confrontation. Donc, mais pour le XVIIIe siècle, tout ceci, c'était de l'histoire ancienne. Au XVIIIe siècle, l'islam ne fait plus peur. Et c'est, il y a bien sûr, il y a eu le Pente en 1571, en 1580, le traité entre le sultan et Philippe II pour délimiter les zones d'influence dans la Méditerranée. C'est un traité qui a été en vigueur plus ou moins jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il a été possible grâce à les tensions, à l'affrontement entre les Ottomans et les Persans. Les Ottomans étaient obligés de garder leur flanc oriental face aux Persans, ont dû arrêter leurs incursions en Méditerranée occidentale. Et donc, disons que la tension sur la Méditerranée et le monde européen a profondément diminué. C'est important de rappeler que c'est vrai que sur les Balkans, les hostilités se sont poursuivies jusqu'à 1683, où les Turcs ont été aux portes de Vienne. Mais en Méditerranée et dans le monde espagnol, et en Europe en général, tout ceci, au XVIIIe siècle, carrément, était une histoire oubliée. Donc, l'intéressant, c'est... Et c'est à ce moment-là que tout a... Disons que l'image de la société musulmane n'était plus celle d'une menace, mais c'était celle de luxe, de la séduction, de l'orientalisme, de la volupté, de harem, C'est les fantasmes qui ont commencé, la Turquerie qu'on va trouver depuis Molière jusqu'à Camondo, depuis la Croix, Loti et tout ça, bon. Et Alexandre Dumas. Mais je parlerai très rapidement d'un cinquième fantasme. Donc jusqu'ici, nous avons vu quatre fantasmes espagnols, mexicains, disons. Et un cinquième fantasme, c'est un fantasme ottoman. À cette même période, les Ottomans eux-mêmes, les Turcs, s'imaginaient aussi des choses à l'égard du monde américain. Il y a un écrivain anonyme, nous ne savons pas son nom, qui a écrit au XVIe siècle une description des Amériques. C'est un manuscrit en turc qui a été édité, qui a circulé en manuscrit, traduit en persan au XVIIe siècle et qui a été l'objet d'une circulation pour l'imprimerie au XVIIIe, très tardivement. Le titre c'est Tarih i Garbi, c'est-à-dire une espèce de description du monde occidental. Et c'est une description de toute l'Amérique, Amérique du Nord jusqu'à Amérique du Sud. La partie la plus importante, c'est surtout le Mexique, mais il parle aussi du Pérou et aussi du reste des possessions espagnoles et portugaises. Et dans la maison d'édition où je travaille, nous sommes en train de préparer cette année la traduction en espagnol, la première traduction en espagnol directe du turc, et qui paraîtra peut-être dans 2 ans, avec toute une équipe de chercheurs de différentes institutions et mexicaines et étrangères. Donc là, on trouve une description de ce monde américain, c'est une description aussi fantasmatique, quoiqu'il n'est pas inexact, puisqu'elle est fondée sur tous les manuscrits, surtout italiens, qu'on pouvait trouver dans les marchés, disons, vénitiens et même à Istanbul. Donc, c'est une description assez fidèle, assez précise, de ce que les Espagnols et les Italiens ont vu en Amérique, et ce Turc anonyme en a fait un recueil. Goodrich en a fait la première édition anglaise de ces documents il y a déjà une vingtaine d'années. Et Serge Grzynski, ici à Paris, a publié un livre très important qui, à partir aussi en analysant ces manuscrits, le livre de Serge Grzynski qui s'appelle « Quelle heure est-il là-bas ?» Et c'est publié en français. Mais une chose importante, c'est « Description d'Amérique » n'est pas du tout faite pour pousser aux Turcs d'aller en Amérique. N'est pas vraiment une invitation, un élan pressant pour... Il faut profiter de cette terre, il faut profiter de cette situation. Non, c'est une description lointaine, intéressante, et surtout pleine de préjugés qu'ils ont partagés d'un côté de l'autre, mais... Ça nous amène directement à notre sujet suivant. Tous ces fantasmes, au fond, ne sont que le témoignage d'une absence. Pourquoi toutes ces présences sont seulement fantasmatiques? Pourquoi ces sociétés des cultures musulmanes n'ont pas envisagé la possibilité de profiter de cette occasion exceptionnelle qui s'est offerte à tout le monde, qui était de prendre place à cette manne américaine qui était disponible pour tout le monde. Finalement, les Caraïbes sont plus près du Maroc que de l'Espagne. Vous savez que pour aller en Amérique, les Espagnols, tous les vaisseaux espagnols de l'époque étaient obligés de passer par les îles Canaries, qui sont juste à côté du Maroc. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile pour les musulmans d'y aller. Et d'ailleurs, toutes les puissances européennes s'y sont plongées avec enthousiasme dans cette nouvelle découverte. Les Portugais, bien sûr, qui ont été les pionniers, mais aussi les Espagnols, et les Français et les Britanniques, qui ont établi leur territoire, leur comptoir ou leur colonie dans la région. Mais pas seulement, il y a les Suédois, les Danois, qui sont qui sont allés aux Antilles, et les Allemands et les Italiens qui sont partis avec leurs monarques respectifs, et puis bien sûr les Russes, et les Bohémiens, et les Polonais, et tout le monde y est allé, soit par une voie ou par une autre. Pourquoi ? La question intéressante, c'est qu'est-ce qui a empêché les sociétés des cultures musulmanes d'aller dans ces mondes, dans cette quatrième partie du monde, de participer à cette nouvelle rondeur de la Terre. Quand la Terre est devenue vraiment ronde, qu'est-ce qui a enfermé les sociétés des cultures musulmanes dans leur territoire? Pourquoi ne se sont-ils pas sentis interpellés par cette grande, disons, aventure de l'humanité? En fait, dans ces trois parties du monde ancien, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, ils en étaient les maîtres. Ils en étaient les maîtres grâce au monopole du commerce que les caravanes leur procuraient. Donc ils ont établi tout un système social, culturel et politique autour de la caravane. Tout le système culturel et social des sociétés des traditions musulmanes tournait autour de ces monopoles du commerce mondial, du monde de l'époque, qui était le leur. Ça leur permettait de connecter l'Espagne à la Chine et la Scandinavie au Sahel. Les caravanes faisaient tout ça. L'or, le sel, les esclaves, les épices, les produits de luxe, tout circulait par les caravanes. Les caravanes étaient leur propriété. Ils n'avaient pas vraiment besoin de sortir. Disons qu'il y a deux autres peuples n'ont pas aussi entamé cette aventure. D'une part, les Chinois et les Indiens, ils n'avaient aucune raison de sortir parce que c'était eux les sociétés les plus riches de la Terre. C'était eux que tout le monde venait chercher. Ils n'avaient pas vraiment besoin de rien, quoi que ce soit, en dehors de leur terre. Donc, ils n'avaient bien sûr les moyens technique pour entamer une navigation. Ils auraient pu parfaitement aller beaucoup plus tôt que les Européens et s'emparer du territoire. Ça n'avait aucun problème technique qui leur empêchait. Seulement, ils n'en avaient pas besoin, les Indiens et les Chinois. Les musulmans, de leur côté, c'était eux les propriétaires, les maîtres de ce monde par le monopole du commerce. Ils n'avaient pas non plus aucune raison d'en sortir. Donc, ce qui a fait que les Européens ont été les seuls à se lancer dans cette aventure. Donc, on peut dire que la question importante n'est pas pourquoi les sociétés de tradition musulmane sont restées enfermées dans ces territoires qui étaient les leurs et dont ils ont continué à en être le maître, mais qu'est-ce qui a permis aux Européens d'en sortir? C'est peut-être la question la plus intéressante. Bien sûr, il y avait le besoin, ils avaient besoin de... Quand les routes de transport de l'or, du sel et des esclaves, la route de Tombouctou s'est arrêtée à la moitié du XVe siècle et il n'est resté ouverte que la route du Soudan, les Portugais ont été obligés de chercher des voies de navigation vers le sud en côtoyant l'Afrique. Donc il y avait le besoin d'un côté. Mais il y avait plus que le besoin, c'est la possibilité. La possibilité non pas seulement de faire, parce que ça, le commerce, ça aurait été, il aurait suffi. Si ça n'avait été que le besoin, ça leur aurait suffi de faire des comptoirs et puis doubler les puissances des caravanes par les moyens de navigation. Il n'avait pas que ça. Il avait surtout la possibilité. Et cette possibilité, c'est celle-là finalement le plus important. Qu'est-ce qui a permis aux sociétés européennes d'être capables de profiter elles seules de cette aventure du fait que la Terre devint ronde? C'est finalement cette grande révolution du XIIe, XIIIe siècle que les médiévistes appellent la grande révolution du Moyen-Âge et la première renaissance du XIIe, XIIIe siècle, et c'est des grandes transformations que les sociétés européennes ont connues autour de la féodalité. D'une part, le surgissement des dynasties de la noblesse de la noblesse et des ordres religieux ont permis une transmission du pouvoir avec beaucoup moins d'entropie, beaucoup moins de déperdition de ce qui se passe dans des sociétés qui n'ont pas connu ce phénomène. Des ordres religieux, la noblesse, la dynastie, permettent des transmissions des pouvoirs beaucoup plus claires et surtout, une chose très importante, permettent de faire des investissements à très long terme. Quand on sait qui va être les bénéficiaires de votre investissement, vous pouvez faire des investissements à 80 ans, à 60 ans, et ça transforme complètement le territoire et ça change complètement les données en termes de productivité. Le paysage européen s'est transformé grâce à cet effort des ordres religieux et de la noblesse qui ont fait finalement des exploitations forestales, des forêts systématiques, des séchements des marécages, des canaux qui unissent les rivières et tout ça. Donc, il a eu une terre beaucoup plus productive, une économie beaucoup plus active, d'une part. Il y a le dynamisme que les bourgeois ont apporté à la ville, l'extraordinaire dynamisme intellectuel des universités, du monde universitaire. Il y a eu les tensions, les discussions entre les mondes universitaires. C'est une chose qui n'est pas connue dans les institutions semblables dans le monde de la société des traditions islamiques. Mais tout cela vient sans doute, donc du monde universitaire, mais tout cela vient sans doute d'un élément fondamental de la tradition culturelle, de la chrétienté, qui est la tension entre la sphère du pouvoir politique et celle du pouvoir religieux. La tension qui a été très douloureuse pour l'Occident entre le pape et l'empereur, la querelle des investitures, de tous les conflits entre la papauté et l'empire, ont été au fond finalement un des garants de cette liberté, de cette tension qui a permis finalement de créer les conditions de possibilité politique et économique pour l'Europe de se lancer de cette aventure et en profiter et marquer, disons, être la seule culture capable de, la seule civilisation capable de se réinventer au contact avec cet univers, de se transformer elle-même. Donc il y a eu des métissages importants pour la société européenne quand tous ces éléments sont venus. On va parler l'autre jour de la pomme de terre, du maïs, de la tomate, enfin, toutes ces choses qui ont métissé, disons, la cuisine européenne, sans laquelle on ne peut pas imaginer la cuisine européenne sans le maïs, sans la tomate, sans la pomme de terre. Et c'est justement, par exemple, juste dans les éléments les plus superficiels. Donc, il y a eu ces échanges là-bas. Bon, mais alors... La clé est donc peut-être les sociétés et traditions musulmanes sont restées enfermées dans leur espace à cause de leur richesse, de leur monopole du commerce, et on peut peut-être dire que la caravane a été remplacée par la caravelle. C'est finalement ça, c'est la caravelle qui a eu raison, disons, de ce système qui marquait, sur laquelle était organisée et reste organisée jusqu'à nos jours une grande partie de la vie sociale et culturelle de cette région du monde, la caravane comme modèle fondamental. L'important, c'est donc au XVIIIe siècle, déjà, les sociétés musulmanes se rendent compte qu'elles ne font plus peur, qu'elles sont attirantes, fascinantes, tout ce monde de Molière, de la Croix, eux, ils le ressentent avec, en Occident, on le ressent avec soulagement, et on a oublié déjà cet affrontement, mais là-bas, on le ressent avec angoisse. Comment est-ce possible? Pourquoi sommes-nous devenus anodins? Pourquoi sommes-nous devenus insignifiants? Pourquoi on n'a plus peur de nous? On n'a plus peur de nous. Et cette angoisse a profondément suscité des réactions différentes. Et surtout deux réactions qui sont celles des deux extrêmes des sociétés musulmanes, de ces grands cadres de la société musulmane tels que le décrit Ibn Khaldun. D'un côté, le monde des villes, et d'autre côté, le monde des sables et du désert. Dans le monde des villes, à Istanbul particulièrement, la réaction est celle-ci, au 18e, 3e, 4e décennie du 18e. Si les Occidentaux sont devenus plus forts, c'est tout simplement à cause de leur performance technique. Adoptons donc le plus rapidement possible, occidentalisons-nous, prenons le plus rapidement possible toutes les techniques occidentales et essayons, allons aussi voir du côté des institutions, de modèles politiques, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Mais c'est surtout les techniques. C'est la grande... écoutez, c'est marqué fondamentalement par l'adoption de l'imprimerie, si tardivement que vers 1740, donc plus de pratiquement 3 siècles après l'Occident. Vous pouvez imaginer le décalage si important que ça peut provoquer sur un espace culturel. Si on compare le dynamisme que l'imprimerie a apporté depuis la fin du XVe siècle en Europe, et si on commence à imaginer que c'est à peine, l'imprimerie était connue de tout le monde, bien sûr, mais ce n'est que à la première tiers du 18e que les musulmans des grandes villes ont commencé à en faire un usage systématique. Donc la première élan est allons vers les technologies de l'Occident. Celle-ci, c'est un élan qui est duré jusqu'à à peu près 1970. Et il a adopté plusieurs expressions. C'était « devenons démocrates, devenons libéraux, devenons capitalistes, devenons marxistes ». C'est-à-dire des formes diverses d'expression culturelle de l'Occident qui étaient essayées d'être adoptées par les élites intellectuelles des grandes villes et dans tout le monde musulman. Mais vers les années 1970, ce chemin-là a commencé à faire l'objet d'une façon assez claire d'une déception. On ne peut pas passer de tiers-monde au premier monde en s'appropriant seulement des techniques ou même en faisant des grandes révolutions politiques comme celle de Mustafa Kemal en Turquie. Où la démocratie, ni la démocratie, ni le marxisme, tels qu'on peut les appliquer dans des sociétés du tiers-monde, peuvent vraiment garantir une prospérité telle que celle dont on rêve. Et donc, il y a eu une deuxième réponse opposée à celle-ci. Et la deuxième réponse est surgie de l'autre pôle, du pôle extrême, celui des sables du désert, et c'est surgi aussi au XVIIIe siècle, au même moment où les gens d'Istanbul s'est modernisé. Et la deuxième proposition était exactement l'opposé de celle-ci, et vient directement d'un élément de tradition prophétique que les musulmans, comme les chrétiens, nous avons hérité de nos pères juifs. Et qui est celle-ci ? Si la vraie raison de notre faiblesse n'est pas la supériorité technique des autres, mais notre infidélité à l'égard de Dieu. Nous avons, quand le peuple d'Israël n'était pas suffisamment fidèle, il était puni. Et une fois qu'il se repentait et qu'il montrait sa fidélité à nouveau, le Seigneur prenait pitié de lui. Donc, voilà, c'est ça la solution qu'il faut prendre. Revenons à la rigueur de l'observance. Soyons rigoureux. Ça, c'est finalement le noyau du wahhabisme du XVIIIe siècle. Revenons à la rigueur fondamentale et Dieu aura pitié de nous. Ça suffira. Ce n'est pas nécessaire d'aller à faire des grands changements techniques. Il faut aller au fond de la piété et de l'observance, la rigueur, et cela nous garantira à nouveau la prospérité auquel nous avons droit, puisque nous sommes le Seigneur du monde. Nous avons été pendant un millénaire le Seigneur du monde, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de le redevenir. Et donc il y a une profonde frustration qui est le moteur de cette, disons, c'est la première, de cette deuxième type de réponse. Et cette réponse a reçu une confirmation paradoxale du fait de la manne pétrolière. Parce que c'est justement dans des territoires de rigorisme religieux où une richesse inattendue, disons pas directement méritée, est venue tomber sur les bras. Et tout le monde dit, on a pu peut-être imaginer que c'était vraiment la réponse, cette réponse à ce rigorisme, à cette observance particulièrement stricte. Mais ce qui est peut-être important de retenir jusqu'à maintenant, c'est que ces chemins marginaux, qu'au XVIIIe siècle c'était vraiment marginal, et que pendant tout le XVIIIe, XIXe siècle est resté dans les marges, il a continué de faire son chemin, et qui est celui qui est jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ce rigorisme radical n'est vient pas ni de du 11 septembre, ni de la colonisation, ni de Khomeini, ni de ça. Ça vient de très loin. Et que, donc, c'est peut-être important de prendre ça, parce qu'il n'a fait que monter petit à petit. Et dans les années 20, par exemple, dans le Moyen-Orient, il avait déjà rallié à sa cause des populations importantes. Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire quelques conclusions de cette réflexion, pour en finir. Ces hypothèses que je voulais présenter ici, comme en voyant d'un angle périphérique, externe, disons, d'une autre cadre que celui de l'Europe, peut-être de prendre en considération une chose, c'est considérer d'abord qu'il s'agit des cycles longs. Ces cycles de confrontation, d'apaisement sont des cycles assez longs. Et que ces cycles de confrontation qu'on a vu, dont je viens, okay, avec lesquels j'ai terminé, celui de rigorisme radical, est aussi un cycle qui a déjà plus d'un siècle, disons, presque pratiquement deux siècles de chemin. Et qu'il n'est pas donc simple d'imaginer qu'avec trois ou quatre mesures, il puisse s'arrêter. Et qu'en considérant tous ces cycles, disons qu'il est vraisemblable qu'on soit entré à nouveau dans un cycle de confrontation qui sera vraisemblablement assez long et qu'il faut donc essayer d'envisager comment va-t-on vivre avec. Un deuxième élément qui est peut-être important de considérer, c'est, disons, que j'ai essayé ici de montrer comment on pouvait réfléchir à un sujet en le prenant uniquement par un bout, par le bout de la civilisation, de la culture, en essayant de laisser de côté son aspect spécifiquement religieux, tradition religieuse, ou même message religieux, ou même, disons qu'on peut, bien sûr, ça limite extraordinairement l'angle de vision, mais il est possible, disons, en se plaçant uniquement sur le bout ethnologique, sociologique, anthropologique, et on peut, disons, en Occident, il est plus facile pour nous de faire cette démarche, puisque nous avons abandonné, comme on disait au départ, nous avons abandonné au XVIIIe siècle déjà l'identification entre christianisme et chrétienté. Maintenant, on sait que chrétienté n'existe plus, il existe christianisme et Occident. Donc, on a conscience du rapport d'altérité que nous avons vis-à-vis de notre civilisation. Et on est conscient qu'on n'est pas responsable, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe en Occident. Ce qui n'est pas toujours perçu comme ça à l'extérieur, n'est-ce pas? Toujours, on considère, quand on parle des croisades, souvent, de l'extérieur, on considère que ce sont les chrétiens qui sont les responsables de tout l'Occident, et qui finalement, ça nous échappe complètement. C'était assez douloureux, finalement, de s'en débarrasser de cette responsabilité du XVIIe siècle. Disons que la Compagnie de Jésus en a été l'un des sujets qui a le plus souffert de cela, au XVIIIe. Mais maintenant, donc, voir les choses avec des espaces différents. Troisièmement, sur le métissage. Nous avons vu comment les sociétés sont capables d'adopter les choses les plus inattendues, venant d'ailleurs, quand elles peuvent les intégrer dans un récit renouvelé. Donc les sociétés sont toujours en train de renouveler les récits, et parfois les grands récits, parfois les petits récits, et à un moment donné, elles-mêmes sont capables d'adopter des éléments et les intégrer de façon inattendue. Ces processus d'adoption des fantasmes des Indiens a été, disons, des fantasmes européens par les Indiens, la boucle a été bouclée au XVIIIe siècle quand les jésuites mexicains ont eux-mêmes adopté à leur tour les récits historiques des Indiens, quand les jésuites mexicains expulsés en Italie ont pu adopter les noms d'une tribu, les Mexicas, et dire « nous sommes des Mexicains ». C'est un processus d'adoption croisée, disons. Les Indiens ont adopté les fantasmes des Européens et les jésuites mexicains ont pu adopter les références identitaires des Indiens en disant « nos ancêtres, les rois aztèques ». Ils ont fait ça au XVIIIe siècle, ils ont fait ça en Italie, ils ont fait ça en italien. C'est ça, c'est une des belles paradoxes. Disons que cette identité nationale du Mexique est née en langue italienne, et disons « noi mexicani ». Je tiens par signaler, je pourrais profiter du fait que de la présence ici de Monsieur l'ambassadeur du Mexique pour rappeler le rôle si important que son père a joué dans ce processus de reconnaissance du rôle fondamental que les jésuites mexicains ont eu en Italie pendant l'époque de leur expulsion. C'est le répatriement des restes des plus importants de ces juifs italiens, mexicains en Italie, d'Italie, a pu être fait directement grâce à l'initiative du père de M. l'ambassadeur, qui était aussi l'ambassadeur de Mexique à Rome à l'époque, dans les années 70. Mais, donc, ce métissage le métissage est donc, c'est pas un fourre-tout, c'est pas des mélanges indiscriminés, c'est le phénomène qui arrive quand une société, un modèle, elle est capable de transformer son propre récit pour inclure des éléments venant d'autres récits et de façon qu'ils puissent être entendus, voulus, capables d'exprimer les sentiments de tout le nouveau membre. Et cela exige des conditions de possibilité. C'est pour ça qu'au départ, je disais que si les Indiens ont pu adopter la figure de Charlemagne, de Charles Quint, c'est parce que le roi venait leur donner une base économique et sociale et politique à leur existence. C'est-à-dire, pour qu'il y ait du métissage des cultures, il faut qu'il y ait une intégration sociale, économique et politique à la base. Les Indiens ont pu s'intégrer dans les royaumes, dans les systèmes nouveaux, à partir du moment où ils ont disposé des terres et des autorités qu'ils considéraient légitimes et qui étaient leur caste traditionnelle et qu'ils pouvaient intégrer dans le nouveau système. Donc, métissage et tout ça, c'est un processus de transformation. Finalement, et déjà pour terminer, disons que chacun de nous est en même temps responsable d'une série d'identités qu'il faut aménager, construire, transformer. D'une part, l'identité nationale de chacun, d'autre part, l'identité supranationale dans le monde dans lequel nous devons nous inscrire, les Européens par rapport à la leur, les Américains, les différents par rapport au nôtre, l'espace américain, l'espace d'Amérique du Nord, l'espace d'Amérique latine, les différents espaces supranationaux, les espaces des civilisations, l'espace de la communauté internationale, les grands espaces de la communauté internationale. Donc, dans tous ces espaces, on est obligé de, on a des responsabilités de transformer nos références et nos identités à chaque pas, et on avance et on recule. Mais, il y a un niveau sur lequel c'est fondamental, c'est celui de l'Église et de l'Évangile. Puisque finalement, l'Évangile et l'Église, ce sont des références qui peuvent, comme nous le savons depuis Saint Paul, être capables d'être vécues et présentes absolument dans toutes les situations culturelles, civilisatoires et sociales possibles. Disons que le message fondamental de l'Évangile, cette idée fondatrice qu'il y a un créateur et une autre relation des créatures par rapport à ces créateurs, d'une part. Et cet impératif fondamental de la charité, de la miséricorde, ce sont des impératifs qui peuvent être vécus dans n'importe quel espace civilisatoire. Et si on est obligé parfois d'analyser les espaces civils, culturels et sociaux en tant que tel, en essayant de mettre de côté de façon temporaire pour les effets de l'analyse ces éléments fondamentaux, il ne faut plus jamais oublier que ce sont eux finalement le seul moteur qui peuvent finalement guider la façon dont nous centrerons en rapport et nous transformerons nos propres présences identitaires, soit dans un espace, soit dans l'autre. Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce très vaste tour d'horizon, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Je trouve qu'il nous permet de voir, d'essayer de comprendre comment cette confrontation entre l'Europe et le monde musulman a pu retentir ailleurs, résonner sous bien d'autres lieux, avec les phénomènes de transformation que vous avez pointés aussi. Et je trouve que votre exposé donne beaucoup de clés pour comprendre un certain nombre de choses. J'ai été notamment frappé par le fait que, par ce jeu très subtil dont vous nous avez parlé, de reprise d'éléments narratifs ou de représentation d'une ère culturelle à une autre, mais qui s'opère, on pourrait dire, de manière latérale. C'est-à-dire sans même que personne ne l'ait décidé, quoi. Hein. Et je trouve que ça indique quelque chose d'un ressort de l'humanité pour reconstruire des choses alors qu'on pouvait on pouvait considérer que le paysage était tout à fait désolé, disons. Voilà, j'ai été frappé aussi par la question de l'absence. Est-ce qu'on pourrait dire que les instances mobilisées pour la construction d'une identité doivent finalement être absentes ou s'absenter pour qu'elles puissent vraiment jouer dans la construction d'une identité. Et puis, j'ai été frappé aussi par ce que vous avez dit sur l'importance, on pourrait dire, d'un système de pouvoir qui à la fois assure et sécurise, mais en même temps laisse du jeu. Et, disons, ce jeu laissé, moi j'avais entendu ça à travers ce que vous disiez sur le fait qu'en Occident, il n'y avait plus cette identification entre le politique et le religieux. Voilà. Et puis, il me semble que vous présentez les identités fondamentalement comme quelque chose qui bouge et qui n'est pas statique. Et ça, ça peut changer nos manières de voir. Et en plus, avec le fait qu'on a une responsabilité par rapport, justement, à la direction dans laquelle nos identités vont. On a aussi une responsabilité par rapport à ça. Voilà. Donc, un très, très grand merci à vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est que peut-être on prenne 2-3 minutes sur place pour parler avec votre voisin, peut-être redire des choses qui vous ont paru particulièrement intéressantes. Et ça, ça permettra peut-être aux uns aux autres d'élaborer leurs questions. Après, on a jusqu'à 11h30 pour un temps de questions avec Alfonso. Voilà. Donc, on a 2-3 minutes là.
Non, merci, j'espère que... Bon, merci. Comme ça, on peut laisser le... les images.
Voilà, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir reprendre. Voilà, nous allons pouvoir reprendre nos échanges. Il y a un micro qui circule, c'est deux micros, Brigitte et Antoine qui... voilà. Peut-être on peut prendre les questions par petit paquet, par... 2, 3, 4 questions. Ou réactions, ou remarques, ou voilà. Donc, François.
Oui, merci pour cet impressionnant tour d'horizon des diverses cultures. Vous êtes passé très rapidement sur la tension politique religieuse de l'Occident médiéval en particulier, qui est effectivement une caractéristique, je crois, importante, qu'on peut mettre en contraste avec une autre civilisation dont vous n'avez pas parlé, qui est la civilisation byzantine, dans laquelle, pour laquelle il n'y a pas cette tension politique, religieuse, au profit de la symphonie, du patriarche et de l'empereur. Alors que dans la partie occidentale de l'Europe, oui. Dans la chrétienté occidentale, il y a cette tension.
Oui.
Donc, revenir un petit peu sur cette tension politique, religieuse. Merci.
Oh, merci.
Oui, très juste. Au moment de poser votre question, c'est bien de vous présenter. Donc là, c'était François Hevé, qui est enseignant au Centre Sèvres et en même temps rédacteur en chef de la revue Études. Voilà. Voilà.
Le père Léon Ferdinand Caruigé, du diocèse de Namur, en Belgique, troisième cycle ici. Alors, merci pour votre exposé qui nous a permis de voir les problématiques à la lumière de l'histoire. Mais alors... pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Car vous nous avez dépeint un métissage qui s'est fait sur de nombreux siècles, mais on peut constater encore aujourd'hui beaucoup de disparités, beaucoup de méfiance, que ce soit au Mexique, mais aussi peut-être partout dans le monde, entre des populations qui sont d'origine indigène et des populations qui sont arrivées suite à la colonisation. Et actuellement, on voit par exemple aux États-Unis ces grandes questions autour des Amérindiens. Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore, finalement, enfin, qu'est-ce qu'on peut encore faire?
Merci. Agnès?
Agnès Kim, professeur au Centre Sèvres. Alors, je suis coréenne. Alors, je voudrais bien un peu parler par rapport à la question du métissage en Corée. Et donc, la rencontre avec la culture occidentale a eu lieu au XVIIe siècle, à travers les jésuites qui étaient en Chine. Et donc, Matteo Ricci et ses compagnons, ils ont traduit pas mal d'ouvrages occidentaux en chinois, et les Coréens ont eu ces ouvrages, et ainsi il y a une rencontre. Et il y a une sorte de métissage qui a commencé surtout à partir du XVIIe siècle. Et puis, XVIIIe siècle, le christianisme entre, et puis il y a des chrétiens qui naissent, etc. Alors, ma question est que, actuellement, dans le monde entier, presque entier, que la culture occidentale domine, et puis la culture, disons, la culture nationale est presque englobée par cette culture qui vient avec par la porte de utilité et positivisme. Alors surtout en Corée, c'est en plein dedans, on est dans le matérialisme très poussé, tout ça. Et en tant que théologien, moi je réfléchis. Notre responsabilité aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé votre exposé qui est à la fois l'identité nationale, mais en même temps, il y a une identité supranationale, identité universelle qui est là. Alors, comment nous pouvons à la fois être enracinés dans notre identité nationale, mais en même temps être ouverts au monde entier? Et dans ce sens, en tant que théologien, je réfléchis. Donc, il y a confrontation avec deux manières de penser. D'une part, une manière de penser qui est née du christianisme, qui est née de la logique de création. Et en Asie, c'est une logique d'engendrement qui voit beaucoup plus le monde dans l'intégrité. Donc, qui est beaucoup plus aujourd'hui avec la question écologique et tout ça. Alors, avant, dans le christianisme, dans l'Église, on a dédaigné la culture locale. Et à partir de Vatican II, il y a l'inculturation qui naît, etc. On change. Mais nous avons une responsabilité de revoir notre culture nationale. Et puis comment intégrer cela? Et toutes ces questions se posent. Alors, mon exposé est un peu trop long, je vais m'arrêter ici. Mais comment vous voyez toutes ces questions-là dans le monde aujourd'hui?
Merci beaucoup. Peut-être on peut vous laisser répondre à ces trois questions.
Oui, ça. Oui. C'est le cas de Byzance et la chrétienté orientale est vraiment une grande référence pour tous, parce que finalement, je pense qu'on peut suivre jusqu'à notre époque cette différence d'atmosphère dans la chrétienté orientale et celle de l'Occident. Le fait que, disons, ces grands processus que l'Occident a connus autour de l'émergence de la bourgeoisie, de l'émergence du monde universitaire. En fait, l'université, c'est une institution maintenant universelle, mais dont le cadre est complètement occidental, n'est-ce pas? La grande université est née de ces villes européennes dans lesquelles il y avait déjà une tension entre un pouvoir religieux, c'est-à-dire une tension entre le pouvoir politique. Il y avait un empereur, un pape et des évêques, et puis les bourgeois. Et ces trois éléments n'étaient pas présents dans ce monde, dans le monde de Byzance, le monde byzantin. Cette espèce d'entente plus proche, ce qui a fait que cette troisième Rome de Moscovite, finalement, était beaucoup plus facile de construire, disons, un système intégré, pour ne pas dire autoritaire, hein. Était plus facile de pousser dans un espace où la séparation de ce pouvoir n'était pas si forte qu'ici. Ici, c'était très douloureux, finalement, que c'est les processus de toutes les tensions entre les Hohenstaufen et les papes. Mais à la fin, ça c'est, bon, pour nous, on s'est révélé finalement assez fécond. Je pense qu'on peut toujours ces traces là-bas. Et finalement, c'est cette question de... Aujourd'hui, les métissages agissent de façon utile et fonctionnelle, et quand ils sont précédés, quand ils peuvent se construire sur des formes de rapprochement et d'intégration sociale et économique. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai tenu à souligner cet aspect, disons que ces nouvelles lois des 1540 en l'État espagnol, c'est-à-dire que les Indiens ont pu adopter et la chrétienté et le roi parce qu'ils ont pu disposer d'un espace pour vivre. Cet espace était la garantie d'avoir des terres qui étaient à eux et que personne allait leur enlever, cette garantie du roi. Donc le roi pouvait acquérir à ce moment-là un rôle d'une grande légitimité. Et puis, le fait de disposer à partir de ce moment-là de leurs autorités qui leur avaient toujours été propres. Donc, cet exemple-là, pour montrer qu'ici, disons, et ici à une autre époque et partout, n'importe où, pour pouvoir créer des situations dans lesquelles les métissages de la culture commence à prendre des chemins effectifs, capables de unir, d'intégrer, de transformer les récits communs, et il est nécessaire qu'ils soient assis, construits, sur des mesures de type, disons, sur une rencontre, ou sur des accords de type économique et politique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas intégration, ou s'il n'y a pas... disons, si les disparités sont trop grandes, si les tensions économiques et politiques sont excessives, il est difficile de trouver des formules qui puissent être utiles pour intégrer. Et puis, les résistances sont énormes pour changer les récits sur lesquels s'organise chaque camp des modèles des sociétés. Les résistances viennent de partout. Il est clair qu'il y a des choses qu'on peut faire, des mesures qu'on peut prendre et des chemins qu'on peut appuyer dans les domaines symboliques et culturels, mais que et que parfois ils sont capables de transformer les tendances et de créer des élans nouveaux, mais que sans qu'il y ait des mesures de type sociale et économique, visant à procurer des formes moins agressives de rapports ou d'intégration, toutes les formules qu'on pourra trouver seront inefficaces. J'imagine que, disons, sans ce mesure, et d'ailleurs, c'est pour ça que les explosions, disons qu'il n'y a aucune société qui soit vraiment libre des grincements internes, à chaque fois qu'il faut modifier et transformer un récit, la société crée des remous et s'exprime parfois par des mouvements bruyants ou même violents. Il y a des sociétés qui évoluent de façon plus douce, mais ici, nous avons le souvenir des. Après la Révolution française, toutes les grands les mouvements, les trois grands mouvements du 19e siècle, hein, 30, 48, 70, et puis ben jusqu'à le fait que nous ayons, disons qu'en France, on ait une constitution si récente, finalement. Ce n'est pas un modèle constitutionnel si récent. Ça fait que c'est une société qui se transforme, c'est une société qui sait se transformer profondément et de façon assez renouvelée. C'est le fait de pouvoir disposer d'une constitution récente, c'est la preuve, c'est une société qui s'est réinventée, s'est transformée vraiment de façon très profonde. En ce qui concerne l'Asie, disons que c'est l'autre grand pôle d'altérité fondamental, et c'est pour ça que c'est formidable, parce que c'est un pôle d'altérité avec lequel les relations ne sont pas de conflits, mais au contraire, en ce moment, de grandes collaborations. Je pense que ce qui est fondamental, c'est ce que le père avait souligné tout à l'heure, c'est le fait que les identités sont des références en mouvement, changeantes et multiples toujours. On est toujours obligé de se référer à des identités multiples et qui sont changeantes. Et peut-être on se trouve, l'exemple d'Ricci peut être très utile pour nous, chrétiens du XXe siècle. Disons que Ricci est allé dans une société qui n'avait nul besoin de lui. Les Chinois étaient riches, puissants, ils avaient tout. Et dans leurs lettres, ils disaient souvent, en fait, cette société est si magnifique, si extraordinaire, il ne lui manque que un petit quelque chose de fondamental qui est vraiment la lumière de la foi. Mais sans cela, d'un point de vue d'organisation sociale, d'organisation économique, de pouvoir, c'est merveilleux. Et c'est d'ailleurs cette espèce de fascination des Ricci et ses successeurs pour cette grande société a amené en Europe un élément fondamental, un métissage aussi. Par exemple, c'est la méritocratie. C'est la notion de méritocratie, le mandarinat dont Simone de Beauvoir se moque un peu, c'est cette méritocratie qui est venue directement. Ce sont les jésuites de Chine qui ont fait découvrir aux Européens qu'il pouvait exister une société structuré non pas autour de la noblesse, si de la noblesse a rendu d'immenses services à l'Occident, mais qui a des modèles plus raffinés, plus complexes, plus efficaces, qui est celui de la méritocratie des mandarins. Donc Ricci et ses successeurs se sont emparés d'y entrer. D'autre part, par exemple, cette idée de un autre élément que l'Occident a repris en forme métisse, disons, de la Chine par le biais de Ricci, c'était cette idée de que l'État pouvait avoir des rites, des cérémonies purement civiques, en rapport, disons que les êtres humains pouvaient entrer en contact avec le monde cosmique, pas par le biais de la religion, mais par le biais des cérémonies de nature sociale et civique. Cette interprétation que certains auteurs trouvent un peu excessive de la part des jésuites, un peu réductrice, en voulant interpréter les cérémonies comme en essayant de les détacher, de trop les détacher de leur charge religieuse, a eu une importance énorme pour la construction de la culture des Lumières. On voit Louis XIV lui-même, en s'empressant d'imiter les cérémonies que l'empereur offrait à la nature, à ces puissances de la nature. Donc, voilà, on voit des métissages comme ça qui viennent. C'est pour ça que, disons que, je pense qu'on doit profiter de l'occasion extraordinaire qu'on a depuis longtemps déjà, qui est le fait que les relations entre le monde confucéen et le monde occidental, les emprunts et les passages étaient si nombreux, si féconds, et ils ont donné si peu d'occasions de confrontation explicite. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas eu lieu. Espérons que ce ne sera pas le cas. Mais il est vraisemblable que ça ne sera pas le cas. Mais c'est très fécond, finalement, quand on voit... Et peut-être une dernière réflexion autour de Ricci. Finalement, nous, les chrétiens, on est face au monde moderne, à notre monde, un peu comme Ricci était par rapport à la Chine. C'est-à-dire, la société contemporaine n'a pas besoin vraiment de nous, chrétiens, ne croit pas avoir besoin de nous. Elle est autosuffisante en point de vue technique, en point de vue... l'Occident a construit ses institutions, ses systèmes de valeurs. C'est pour ça qu'elle a renoncé à s'appeler la chrétienté. Maintenant, elle se veut autonome, mais Ricci a su se faire utile, a su se faire a su dire une parole là où personne ne paraissait pas en avoir besoin. Il a su dire ce message fondamental de l'existence d'un univers de l'altérité, de rapport à Dieu qui est une réalité différente de toutes celles, de toute autre sorte d'instance sociale ou symbolique auxquelles on peut se référer, d'une part, et finalement, ce message fondamental de la charité qui est le seul de notre seule ressource, en fait. C'est notre seule ressource. Et c'est la seule chose que nous avons finalement à dire à cette société qui. Le seul témoignage que nous avons à dire au monde est ces commandements de la miséricorde et de la charité active et vivante, peut-être. Voilà.
Merci. Je vous signale à propos de Matteo Ricci qu'il y aura un film documentaire qui est en cours de préparation qui sera projeté sur la chaîne Arte. Il y aura une avant-première ici au Centre Sèvres avec l'Institut Ricci le jeudi 16 novembre en soirée. Voilà. Disons, c'est pas encore sûr à 100%, mais c'est très probable que ça ait lieu. Voilà. Peut-être on peut encore prendre une seule question. Et puis après, on devra arrêter. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou une remarque, ou une... Voilà. Perrin.
Bonjour, Perrin Lefebvre, en premier cycle. Vous avez décrit la manière dont les Indiens ont adopté les dieux, puis surtout Saint-Jacques, Saint-Michel, qu'en fait un rapport de domination. C'est les dieux qui nous protègent, donc c'est eux les vainqueurs. C'est pas exactement, la manière dont on voit l'Évangile, c'est pas exactement ce rapport-là. Comment, à partir d'une porte d'entrée construite sur des dieux qui protègent et qui dominent, on entre à une Évangile qui vraiment prend corps dans une culture?
Question théologique.
Oui, oui, c'est vrai. C'était les... On entre par le plaisir partagé. C'est-à-dire, on entre par la fête, on entre finalement par le plaisir partagé. On entre parce que ce n'est pas en... On entre par la liturgie. On entre par les symboles vécus, par les symboles appropriés, par les symboles qui font plaisir. Et disons que c'est pas que quelqu'un leur a expliqué que maintenant il y avait... C'est parce qu'ils ont ressenti, ils ont vu les descriptions que les missionnaires du XVIe siècle nous font de ces cérémonies, c'est-à-dire les Indiens assistent éberlués en marge de la fête à cette cérémonie et la trouvent belle parce qu'il y a les canons, il y a les drapeaux, il y a les couleurs, il y a les chevaux, il y a les bateaux. C'est une cérémonie belle. Et dans cette cérémonie, il n'y a personne qui leur explique peut-être, mais ils comprennent ce qui s'est passé. Ils voient qu'il y a des dieux. Alors, la clé, c'est l'adoption. Ça marche quand les gens adoptent. Et on adopte quand on a du plaisir. On adopte quand on a un plaisir partagé, quand on a une jouissance qui est commune. Et là, c'est-à-dire qu'ils ont rendu compte qu'avant, il y avait des étrangers qui étaient les Espagnols et qui étaient eux, et qui étaient chacun avec ses puissances tutélaires. Et maintenant, il y a un nous. Maintenant, on peut, et surtout à partir du moment où il y a l'image de la Vierge, c'est-à-dire qu'on peut prier ensemble. Eux et nous, qui sommes si différents dans les langues, dans les traits physiques et tout, on a la même mère et les mêmes frères. C'est ces mêmes frères qui sont Saint-Jean-Baptiste, dans ce cas-là particulier, on a une même mère. Et je pense que c'est le grand succès de l'évangélisation jésuitique, des jésuites, était justement axé sur l'art baroque, et en particulier sur la liturgie baroque, tout l'effort pastoral, parce que l'art baroque est justement cet art qui permet, c'est un art composite, un art de la profusion, mais qui permet à des individus différents de saisir des traits différents, chacun en mettant son trait particulier pour en faire un tableau commun. Et quand on voit à l'époque, mais maintenant, disons que les Espagnols et les Indiens priaient devant la même image, il est possible qu'il y ait il est certain peut-être presque, qu'il y ait une situation de polysémie. C'est-à-dire on ne pense pas tous exactement à la même chose, mais l'objet devant lequel il prie est capable d'être signifiant et pour les uns et pour les autres. Et pour les uns, chacun peut le considérer totalement comme propre. Il est en moi, ceci est en moi, et chacun peut exprimer ses voix les plus profondes, les plus intenses, les plus vraies, avec un objet qui permet, par les biais d'un objet ou des symboles, d'un signe, qui permet à l'autre d'exprimer d'autres sentiments très différents. C'est ça, finalement, la force extraordinaire de symboles, de signes métis. Et c'est Saint-Jacques, on pourrait analyser ça avec des façons précises, très intéressantes dans les cas Saint-Jacques. Saint-Jacques, qui était, pour les Espagnols, celui qui a vaincu les musulmans. Pour les Indiens de l'ethnie Tlaxcaltèque, Saint-Jacques est celui qui a permis aux Tlaxcaltèques de vaincre les Aztèques. Et pour les Aztèques, Saint-Jacques est celui qui a permis aux Aztèques, à eux-mêmes, de vaincre les Indiens Purépecha. Et ainsi de suite. Saint-Jacques est mon protecteur à moi. Et soudain, à côté, les deux ennemis ont un même saint protecteur, et puis un jour, on se rend compte que, finalement, on est des frères, puisqu'on a joué ensemble, on a mangé ensemble, on s'est amusé ensemble, autour d'une même figure, et on l'a adoptée. Et cette figure, on a, par rapport à elle, une relation de tendresse et d'affection. Dans cette fête que je vous ai parlé de Saint-Jean-Baptiste à Zacatecas, c'est le plus impressionnant, c'est le discours que toutes les personnes tiennent maintenant, 3-4 siècles après, d'affection pour Saint-Jean-Baptiste. Hein, c'est Saint-Jean qui on vient de voir tous les ans et pour lequel on fait cette fête, pour lequel on est en train de... On a travaillé pendant 5 ou 6 mois pour préparer la cérémonie tous les ans. Imagine, c'est les gens qui passent 5 ou 6 mois de l'année à préparer une fête. pour qu'un soir, Saint Jean soit content, soit heureux, pour pouvoir lui remercier de ce qu'il a fait pour eux pendant tous les années. Tout le donc c'est un lien d'affection, c'est un lien qui se tisse par la liturgie, et il n'y a nulle force meilleure pour tisser des liens que celui-là.
Un très très grand merci. Je signale que Alfonso sera présent sur Paris jusqu'au 5 octobre, donc on aura sans doute l'occasion de le retrouver. On essaiera peut-être d'organiser une soirée avant son départ au Centre Sèvres. Et puis peut-être que les étudiants du premier cycle, pendant la session, pourront bénéficier de ses réactions à certains moments. Voilà. Votre réponse, qui évoquait la liturgie et le plaisir partagé, fait très bonne transition pour ce qui nous attend maintenant. À ce sujet-là, j'ai deux points pratiques à vous dire. Nous nous retrouvons donc pour célébrer l'Eucharistie, si vous le voulez bien, dans l'église Saint-Ignace, et on commencera à 12h05 précisément. Donc ça nous laisse un peu moins d'une demi-heure. Voilà. Pour entrer dans l'église, il faut passer par le jardin. L'entrée par l'espace Jeannot étant condamnée. Hein. Et un point très important, c'est que juste après l'Eucharistie, il y aura une petite opération délicate, c'est la sortie de l'église. Pour justement ne pas trop traîner dans ce passage-là et se diriger vers la salle de Certeau où les étudiants et les enseignants sont invités à déjeuner. Voilà. Alors, il y a un réflexe qui nous habite et qui est assez heureux, c'est qu'en sortant d'une église, on a envie de parler. Et donc, on s'arrête pour parler. Donc, il faudra lutter contre ce réflexe-là et parler en marchant, voilà, pour aller jusqu'à la salle de Certeau. Si certains d'entre vous encourageons-nous mutuellement là-dedans. C'est-à-dire, n'hésitez pas à dire, ben, voilà, on avance. Hein. Parce que après, le timing sera assez serré. Les étudiants du premier cycle, ils doivent démarrer à 14h. Donc, c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse avoir la bonne après-midi. Voilà. Très grand merci à vous pour votre attention, pour vos réactions, pour vos questions. Il y en a sans doute bien d'autres, mais qui n'ont pas été être formulé, mais ça, en tout cas, ça aura certainement une fécondité, je pense. Voilà. À tout à l'heure, donc, dans l'église.